Vous écoutez Bac FM, il est 10h33, vous commencez à connaître le refrain, on n'est jamais à l'heure. C'est une institution, Action ne commence jamais à l'heure. Vous allez nous dire quoi de toute façon, c'est nous qui décidons. Allez, on est parti, générique.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action. Moteur.
Ah non mais c'est vrai Letty.
Mais c'est vrai, jamais à l'heure. Hein.
On a
hiverné.
Exactement, on sait se faire désirer. Voilà, vous l'avez entendu, hein, Laetitia est avec moi, bien sûr. Elle m'accompagne tout au long de cette émission pour revenir sur l'actualité du ciné Mazarin. Les films qui arrivent au ciné Mazarin cette semaine, qu'ils sortent au niveau national et qui sont donc présents au ciné Mazarin. Il y en a 4 nouveaux, avec beaucoup de films français cette semaine.
Encore
il y a
une fois.
Un film qui va te faire frissonner, Laetitia, que tu vas nous dévoiler dans quelques instants. Et puis Manuel nous parlera d'un duo qui marche très très bien au ciné Mazarin. Et puis il y a une princesse Disney aussi qui fait son grand retour pour un deuxième opus d'une aventure maritime. On reviendra dessus. Juste avant, Letty, par quoi on commence ? Eh bien, on commence par les infos à retenir.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Et ces informations, c'est Manuel qui va nous dévoiler une polémique autour d'un baiser qu'on peut apercevoir dans un blockbuster, le blockbuster de cette fin d'année qui d'ailleurs est champion au box-office.
Oui, en effet.
Oui, Manuel, allô.
Ah oui, pardon.
Salut, Manuel.
Je me demandais si c'était une question ou si c'était un véritable lancement. Oui, c'était donc un lancement. Oui, en effet, il s'agit de Gladiator 2, mon cher Théo, puisque Gladiator 2, il triomphe en ce moment au box-office. Le démarrage est absolument impérial. Il a déjà donc totalisé 1,2 million de tickets d'entrée. Donc, c'est un meilleur démarrage que le premier qui était sorti en 2000, qui avait terminé sa course à 4,8 millions. Et on peut penser, effectivement, qu'il va réaliser un meilleur score. C'est en tout cas ce que les producteurs et les distributeurs de Gladiator 2 espèrent. Alors, tu l'as mentionné, il y a une polémique autour du baiser de Denzel Washington. Alors, c'est difficile de connaître la vérité. La vérité est souvent ailleurs, hein, pour les amateurs de la série X-Files. Parce que qui croire ? Parce que dans une interview, Théo Letty accordée donc à un hebdomadaire la semaine dernière, Denzel Washington, il a fait quelques révélations sur le film Gladiator 2. Pour ceux qui ont vu le film, il incarne un ancien esclave bisexuel. Et l'acteur affirme donc qu'une scène dans laquelle il embrasse un autre homme a été coupée au montage.
Et cette
affirmation, elle a été rapidement démentie par le réalisateur Ridley Scott, qui lui affirme que ce baiser n'a jamais eu lieu. Il a d'ailleurs précisé que pour lui c'était des conneries. Il a avoué un journaliste du magazine Variety. Donc, qui croire, mon cher Théo, dans cette affaire ? Voilà, la question est posée.
Et ouais, c'est ça, c'est la question que je te pose, Manuel. Du coup, qui croire ? Parce que finalement, c'est pas facile. Est-ce que ce baiser, il aurait pas existé pour de vrai, finalement, et il aurait été coupé pour que le film puisse aller un petit peu dans tous les pays, puisse être montré dans tous les pays et pas être censuré ?
Ben, c'est une hypothèse effectivement qu'on peut former parce que Denzel Washington, il a d'ailleurs revenu aussi sur cette scène, il a évoqué un petit bisou sur les lèvres. Il l'a dit, hein, c'est beaucoup de bruit pour rien, j'ai embrassé ses mains, je lui ai fait un bisou et puis je l'ai tué puisque dans la scène Maximus est absolument extrêmement dangereux, il est même machiavélique, c'est un marchand d'esclaves. Dont on apprend qu'il est bisexuel et qu'il a eu des relations avec d'autres hommes par le passé. Donc oui, c'est possible qu'il y ait eu un geste d'affection, comme il a dit, il prend les mains, il fait un petit bisou, voilà. Et je pense que moi, à mon avis, Denzel Washington, il a 69 ans, c'est plus un gamin. S'il le dit, on peut le croire. La scène a dû disparaître. Après, c'est pas forcément un baiser torride sur les lèvres, c'est peut-être un geste d'affection, comme il le précise. Ridley Scott, lui, Bon, il veut que son film, effectivement, puisse conquérir les box-office du monde entier. Donc,
voilà. Il prend pas de risque.
La vérité, voilà, est à mi-chemin. D'ailleurs, Connie Nielsen, qui incarne la mère hein, du héros de Gladiator 2, elle le dit avec une certaine forme de philosophie. Il y a eu beaucoup de scènes dans lesquelles elle a tourné qui ont été coupées au montage, notamment la scène de deuil qui n'a pas été retenue. Donc voilà, c'est un non-événement pour elle et il ne faut pas aller chercher plus loin. Et je crois que c'est elle qui a raison et on va conclure là-dessus.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ce film, hein, Gladiator 2, qui est toujours à l'affiche du ciné, Mazarin, tu vas nous parler d'un film dans quelques instants, Manuel. Ça s'appelle En Fanfare, avec un duo qui crée la sensation dans le cinéma français. Un petit mot, ça va quand même, Manuel? Je t'ai pas demandé tout à l'heure, c'est vrai, je t'ai fait un lancement assez furtif, mais est-ce que ça va quand même? On s'est pas inquiété
oui,
de ton
oui,
état.
Oui, ça va très bien. Et effectivement, parce que il fait beau dans le Dauphiné, on a les cimes qui sont un petit peu enneigées sur les hauteurs, mais il y a un beau soleil et il fait beau aussi, et ça c'est important. Le box-office cinématographique bat son plein, et d'ailleurs je précise au passage que on avait évoqué dans Action au boulot, et on avait même diffusé l'interview réalisée à Château-Chinon des deux metteurs en scène.
Ouais, que tu avais rencontré, Manuel, exactement.
Voilà, exactement, et notamment François Ruffin pour le film Au boulot. Et bien, il cartonne pour un documentaire. Il a franchi la barre des 100 000 entrées au box-office. Donc ça, c'est une belle réussite.
Ouais, malgré qu'il a été retravaillé d'ailleurs, hein, ce documentaire. Hein. Il y a des extraits qui ont été enlevés parce qu'il y a un conflit avec Sarah Salman d'ailleurs.
Oui, oui. Donc voilà, et c'est une belle sortie. À saluer, puisque dans Action on avait soutenu ce film et on le précise avec notamment des scènes tournées dans le Morvan et un agriculteur du Morvan est l'un des héros de ce documentaire.
Ouais, exactement, un film qui continue d'ailleurs d'être diffusé à travers le réseau de Cénicoanone et du cinéma itinérant d'ailleurs, Manuel. On te retrouve dans quelques instants pour parler Benjamin Laverne, de Pierre Lotin, qui sont en Fanfare. Manuel, à tout à l'heure.
Allez, à tout à l'heure.
Oui, on va passer justement à ce qui est proposé au ciné Mazarin cette semaine. 4 nouveaux films génériques.
C'est pour le cinéma ou la télé?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Et on commence ces sorties de la semaine avec une question, Letty, que j'ai à te poser. Qu'est-ce qui arrive dans 26 jours?
Je crois que c'est le passage du Père Noël, si mes calculs sont bons.
Alors c'est le réveillon de Noël, plus précisément.
D'accord.
Justement, le nouveau film qu'on va évoquer va nous faire un bond dans le temps et offre un cadeau, alors ou non, je ne sais pas, à Can Merad. C'est son premier film de Noël, un casting qui est complété par Valérie Bonneton, Macha Merrill et Laurence Stoker. Une comédie familiale idéale pour entrer doucement dans la période des fêtes. Les boules de Noël vont nous plonger dans un Noël qui vire au désastre chaque année pour Nathalie et Antonin. Mais cette année, Nathalie décide d'en finir et de ne pas le célébrer. Et pourtant, l'arrivée imprévue de sa sœur éloignée et les efforts de sa famille vont donner une tournure aussi drôle qu'émouvante aux événements. Bande annonce.
D'abord, on ouvre mes cadeaux.
Papa, c'est une bougie.
Hein?
C'est exclusivement à Noël.
Que quoi?
Que ça se passe mal.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
À chaque fois avant minuit, docteur, il se passe quelque chose.
Si vous n'avez jamais été frappé par une vieille, eh bien ça va commencer ce soir.
Charlotte, elle est végétarienne.
Vegan.
Tu sais pas ce que tu auras de Charlotte, hein?
Cet animal, assassin!
C'est dans ta tête tout ça. Ça n'existe pas, une malédiction.
Oui, papa, oui, maman, deux secondes.
Ce soir, personne ne quittera cette maison avant le dernier coup de minuit. 4 heures à tenir.
Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est?
Nicole!
J'ai changé à ce point-là.
Joyeux Noël!
Je trouvais que c'était une bonne idée de revoir ta sœur. En plus, c'est important que les enfants connaissent leur tante.
Bon, allez, on retourne à table, ma dinde va être froide.
Oh, ça va, détends-toi, lâche-nous avec ta dinde.
Non, mais c'est vrai, maman.
Quoi, ça va?
Quoi?
Regarde, papa.
Je l'ai jamais vu comme ça. Hein.
Une petite danse à trois.
Dans 7 minutes, il va être minuit. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive comme catastrophe ?
Allongez-moi !
C'est une très belle comédie qui s'appelle Les Boules de Noël, toujours un petit peu d'absurde, mais qui ne tombe pas dans une certaine lourdeur quand même, ouais. Hein, malgré ce qu'on peut croire avec la bande-annonce, c'est vraiment pas lourd, c'est très bien
moi
fait.
Moi j'ai très envie de le voir ce film-là.
Eh bah écoute, Letty, je te propose d'aller le voir au cinéma, ça, hein, bah, pour le coup, il est disponible.
Je vais peut-être me laisser tenter, d'autant que dedans il y a mon chien.
Ah oui, c'est
pas
vrai.
Le même, hein, c'est pas le mien personnellement.
Ah, c'est pas le tien.
Bah non, elle n'a pas été retenue au casting.
Non mais c'est vrai, puis il y a un joli message aussi à travers ce film, c'est quand même, bah les fêtes, elles sont faites, sans mauvais jeu de mots, pour rassembler les familles. C'est donc dispo Ciné Mazarin. Letty, si tu vas le voir, tu nous donneras ton avis hein, sur
ça
ce
marche.
Film. Noël arrive à grands pas, mais Halloween ne reste toujours pas très loin. Ça tombe bien, car Hugh Grant va donner des frissons en psychopathe sadique dans Hérétique, je crois.
Exactement, et décidément, après avoir longtemps été assigné à jouer les lovers dans des comédies romantiques, eh bien Hugh Grant, il en finit plus de nous surprendre ces derniers temps, puisque après avoir endossé le rôle d'un Oompa Loompa dans Wonka l'an dernier,
c'est vrai.
Ouais,
c'est vrai.
Le voici maintenant dans la peau de l'excentrique Mr. Reed, un vieil homme qui paraît charmant au premier abord, mais qui cache bien son jeu, et c'est ce qu'on va découvrir hein, dans Hérétique, un film dont le scénario est signé du duo Scott Beck et Brian Woods, et on les connaît déjà un petit peu quand on aime les films d'horreur, puisqu'on leur doit aussi le scénario du film Sans un bruit, qui a été
bien
un
sûr.
Des succès d'épouvante.
Bah, il y en a deux d'ailleurs, des Sans un bruit, je crois. Trois,
il y en a
d'accord.
Mais ils ont signé que le premier. Alors, de quoi ça parle, Hérétique ? Eh bien, de comment deux jeunes missionnaires de l'église mormone qui font du porte-à-porte, deux jeunes filles donc, dans le Colorado, pour tout simplement pour convertir de nouveaux adeptes, elles vont, au soir venu, finir par frapper chez ce fameux Mr. Reed, qui va les accueillir chaleureusement, mais le piège, il va rapidement se refermer sur les deux jeunes femmes qui vont, elles, découvrir que la maison de leur hôte est un véritable labyrinthe semé de danger, et elles ne pourront compter que sur leur ingéniosité et leur intelligence pour en ressortir vivantes. Voilà, ça fait frissonner bande-annonce.
Bonjour madame.
Aimeriez-vous en savoir plus sur Jésus-Christ, notre sauveur ? Bonjour.
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 Moi je suis
aimeriez-vous...
Sir Barnes et... Mon Dieu.
Êtes-vous intéressé par l'église de Jésus-Christ ?
Entrez, je vous prie.
Ce n'est possible qu'en présence d'une autre femme.
Ma femme est à la maison, ça compte ?
Super.
Vous aimez la tarte ?
On adore.
Ma femme en a mis une au four.
Ah, je vois que vous êtes une personne très intéressée par le religieux.
Je pense que c'est une bonne chose d'être religieux, d'avoir foi en un dogme auquel on croit absolument.
Dans ce cas, notre mission est accomplie.
Bon, je vais voir où en est cette tarte. So we sleep.
Je vais essayer d'ouvrir. Tu crois que tu peux passer par là ? Jamais de la vie. Essaye d'ouvrir. On veut juste rentrer à la maison.
Je ne vous retiens pas, si tel est votre désir. Mais vous devez choisir quelle porte vous allez emprunter, selon votre croyance.
Qu'est-ce que ça a à voir avec notre départ ?
Ça a tout à voir.
Je crois qu'on nous observe.
Votre cœur va battre plus vite. Vous aurez même envie de mourir. N'ayez pas peur. Vous allez assister à un miracle.
Et Hérétique, c'est le nouveau thriller palpitant à découvrir dès aujourd'hui au cinéma Mazarin, avec, on le rappelle, Hugh Grant dans le rôle principal, et il est entouré aussi, il faut le signaler, de deux jeunes actrices très prometteuses. On a Chloé East, qu'on avait aperçue dans The Fablesman de Spielberg.
D'accord.
Elle jouait justement la petite amie, alors pas de, enfin, du héros.
Ouais.
Et puis on a aussi Sophie Thatcher, qui s'est déjà illustrée dans plusieurs films d'horreur, notamment dans Le Croque-Mitaine en 2023, dans Maxine cet été, et puis on l'a vu aussi dans l'excellente série Yellow Jacket.
J'ai très envie de le voir, ce film Hérétique.
Bah, moi aussi.
Il me donne très envie parce que, en plus, c'est de l'horreur psychologique, hein, c'est pas.
On est
forcément...
sur du thriller, ouais.
Ouais, c'est ça, et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée de devoir sortir par une porte, laquelle choisir, etc.
Ouais.
Très psychologique. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, à la place des héroïnes, etc. Faut une vraie complémentarité aussi, hein, pour les deux actrices, comme tu le dis, qui sont très prometteuses. Et puis Hugh Grant en méchant.
Alors, apparemment, il cabotine beaucoup, mais c'est très efficace.
D'accord. Bon, bah écoute, peut-être qu'on aura des premiers retours semaine prochaine, hein, aussi,
ben,
sur le box-office,
ouais.
Comment il va marcher en France. Et puis, je pense qu'il y aura beaucoup de curieux pour voir Hugh Grant, donc, dans ce rôle de méchant, qui dit avoir pris beaucoup de plaisir à jouer, hein, d'ailleurs.
Bah ouais, ça doit être kiffant, en fait, de jouer un méchant en plus quand t'as toujours été un peu le gosbo et tout.
Ouais, c'est ça, là, c'est un peu à contre-emploi, donc on retient aussi que tu viens de dire gosbo, hein, Laetitia, on n'oublie pas ce terme. juste avant d'évoquer la sortie événement de cette fin d'année, qui va à coup sûr emmener de nombreuses familles en salle, ça c'est évident, on va retrouver Manuel, hein, qui revient en fanfare, transition parfaite pour évoquer le nouveau film d'Emmanuel Courcol, Benjamin Laverne et Pierre Lotin au casting, bande-annonce, ça s'appelle En fanfare.
Tenez, large.
Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie.
Ah merde.
Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible.
Ah merde.
Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur.
Ah putain. Enfin, je veux dire, merde.
Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous.
Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui ?
Le mec qui débarque avec sa gueule de premier de la classe, n'a rien à voir, lui et moi.
J'essaie de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas, alors qu'on aurait pu être réunis.
Si tu savais ce que j'ai pu y penser à ce garçon, pendant des années.
Si on vous avait confié à moi, je vous aurais gardé tous les deux.
Quelle chance de vous avoir trouvé.
Ah, ça c'est sûr, il y a de la chance, lui, hein.
Pour la moelle, ça a marché. Par contre...
Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?
Maintenant, j'aurais besoin d'un rein. Alors je me suis dit, comme t'es compatible, si tu pouvais me mettre un poumon avec.
Putain, moi je plombe en plus.
Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone ?
Tu sais, ici, c'est fanfare ou foot, hein.
Notre chef nous a plaqué lâchement.
T'es malade, toi ?
Mais vous avez pas un remplaçant ?
C'est toi qui dois diriger.
Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre, toi, non plus, hein.
Je vais t'aider. Allez, viens.
Attends, non, hey, j'ai pas dit oui, hein.
Pam 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 pam.
Mais c'est super, Jimmy, c'est super.
Qu'est-ce que c'est super, on entend, t'entends rien.
Ah non, mais je te vois, ça le fait grave.
Oh.
Tu vois ?
Tu auras de l'ambition.
Tu sais quoi, plus tard, c'est même toi qui dirigeras l'école de musique.
Moi, je dirige une école.
Tu paries ?
Tu gagnes le bulletin scolaire ?
Alors c'est ça la vie qu'on aurait dû avoir.
Si on avait tiré le même numéro, t'appellerais pas Thibaut, toi ?
Ouais, hein ? Tu m'appellerais comment ?
Je sais pas, moi, prénom normal, genre Jordan, un truc comme ça.
Ah, ouais.
Et même, Manuel, je le disais, tu reviens en fanfare.
Oui, merci Théo, c'est sympa. Un bon lancement. Oui, parce que c'est une belle histoire qui nous est racontée. Alors, on l'a entendu à travers cet extrait de la bande-annonce. Donc, le personnage incarné par Benjamin Laverne, Thibault, il est chef d'orchestre, il est mondialement connu. Il découvre qu'il a un frère, ce frère c'est Jimmy, qu'interprète Pierre Lotin, il est employé dans une cantine scolaire, il joue dans du trombone dans une petite fanfare du nord de la France, et Thibaut s'aperçoit que ce frangin, qui a grandi dans un milieu populaire, alors que lui, il a été élevé dans une famille bourgeoise, eh bien il s'aperçoit que ce frangin, il est très doué pour la musique, il va décider de l'aider, peut-être même de changer son destin. J'en dirai pas plus parce que il faut rien révéler et mettre surtout sur la piste du film.
Ouais,
c'est
sûr.
Un petit peu ce que nous avons choisi comme ligne éditoriale, nous, dans notre émission Action.
En tout cas, Emmanuel, c'est un film qui plaît beaucoup parce qu'il y a un binôme qui marche. Ton avis, avant tout, déjà sur le film. On va revenir après sur les deux acteurs, mais ton avis sur ce film ?
Ben, c'est vraiment une histoire de fraternité, une histoire de solidarité aussi. C'est très, très émouvant. On est touché par ce film. Il y a beaucoup d'humour, donc c'est à la fois drôle, mais c'est aussi poignant. C'est ce que j'appelle, moi, les Anglo-Saxons ont trouvé un terme, c'est un feel good movie. Voilà, ouais, voilà, ça fait du bien. Ouais. Et c'est vraiment totalement le climat du film. Il y a des vrais musiciens de la fanfare des mineurs de Lalin, qui est une ville du Nord. Et le duo formé par Benjamin Laverne et Pierre Lottin fonctionne parfaitement. Ils sont épatants tous les deux. Dans ce film, voilà.
Ouais, c'est ce qui ressort aussi hein, sur les premiers retours de ce film, c'est que c'est un bel hommage aux Hauts-de-France aussi.
Oui, oui, exactement, parce que c'est le département qui fait chaud au cœur, on le sait, pas toujours le climat à l'extérieur, mais beaucoup de chaleur dans le cœur avec ses habitants qui ont la main sur le cœur et qui montrent que voilà, il y a une belle solidarité. Ça me fait penser aussi au film de Ken Loach. Je pense au film notamment les Virtuoses, des films dans cet esprit-là, où il y a un bel élan, et où toute l'humanité pointe au rendez-vous. Ouais.
Et puis porté par un binôme de choc, hein, c'est ce qu'on disait, Pierre Lottin, Benjamin Laverne. Alors Benjamin Laverne, il a plus grand-chose à prouver. On connaît maintenant son talent. Pierre Lottin a beaucoup été résumé à son rôle dans Les Tuches. Il arrive ici avec un rôle plus sérieux, n'empêche que dans Les Tuches, même si on reste sur un feel-good movie, et c'est la vraie surprise de ce film.
Oui, en effet, parce que c'est vrai que il est tout en délicatesse, hein, Benjamin Laverne, son personnage. Celui qu'incarne Pierre Lottin, il est un petit peu plus rugueux, mais justement, au-delà de l'image du film qu'il a révélé, Les Tuches, qu'il ne renie absolument pas d'ailleurs, hein, Pierre Lottin, au contraire, puisque c'est à ce film qu'il doit justement son parcours qu'il a mené jusqu'à nous aujourd'hui avec ce film En fanfare d'Emmanuel Courcol. Il faut préciser aussi, on l'avait d'ailleurs souligné dans Action, qu'il est excellent. Justement, dans un film aussi à contre-emploi de la comédie, c'est « Quand vient l'automne »
oui, bien sûr.
De François Ozon, avec un personnage là aussi tout en nuances. Donc il montre qu'il a beaucoup, beaucoup de facettes et qu'au-delà de ce personnage de Wilfried Tuche avec sa petite voix de canard, mais en fait, tu vois, Théo, il a bifurqué à partir de 2019 avec le film de François Ozon, Grâce à Dieu, où il incarnait l'une des victimes d'un prêtre pédophile. C'est ce qui l'a amené justement vers un cinéma plus dramatique.
Ouais, c'est ça. Et ouais, un nouveau regard aussi s'est porté sur lui et ses capacités d'acteur dans des rôles plus différents, bien sûr.
Voilà, un petit peu plus sérieux, comme on dit. Mais on le retrouvera avec plaisir dans God Save the Tuche, hein, le cinquième opus réalisé par Jean-Paul Roux. Ce sera, et j'imagine qu'on en parlera dans Action, ce sera le 5 février 2025. Voilà pour le succès de Pierre Lottin. J'aimerais terminer en disant que Pierre Lottin, j'étais en direct il y a quelques semaines du Festival de Liège, le Festival international du film de comédie de Liège, et Pierre Lottin a remporté le prix d'interprétation justement pour son personnage dans En fanfare. Donc c'était important de préciser que il y a un succès public, il y a un succès critique, et qu'il est sur la voie justement du succès. On est très content pour lui.
Ce qui donne encore plus envie d'aller voir ce film En fanfare. Petite info sur Pierre Lottin d'ailleurs. Je te l'ai jamais dit, Manuel. On a beaucoup parlé ensemble de cinéma. Je te l'ai jamais dit. J'ai déjà bu une bière avec Pierre Lottin.
Eh ben écoute. Alors, est-ce qu'il était aussi sympa? Moi, je l'ai vu à l'époque Tuche. Je l'avais rencontré à l'Alpe d'Huez. C'était un peu la folie des Tuches,
ouais.
Avec le box-office et tout ça. Il m'avait paru très sympathique, mais voilà, c'était un contact assez rapide. Donc toi, autour d'une bière, qu'est-ce qu'il t'a confié, mon cher Théo?
Alors, pour l'anecdote, à l'époque, je vivais à Clermont-Ferrand, et il y a à Clermont-Ferrand un festival du court-métrage. Je sais pas s'il existe encore, mais à l'époque, donc
il existe encore parce qu'on le surnomme le Cannes du court. C'est le plus grand festival du court métrage au monde.
Et ben voilà, il était présent, Pierre Lottin, à ce festival-là. Il venait présenter un court métrage justement, et c'était à l'époque également où sortait le premier Tuche. Il venait de sortir il y a quelques mois, on va dire, et donc effectivement, il y avait toute cette effervescence. Et lui, il était là, et je pense qu'il s'attendait pas spécialement à être reconnu autant et à cette notoriété. Et on était à un bar qui s'appelle le Thames à Clermont. À Montferrand, on buvait avec des amis, et lui il était sur la table d'à côté, et j'étais allé le voir, et je lui dis: ah putain, mais t'es le fils Tuche, toi. Et bon, j'étais pas dans un état forcément très Très approprié à une conversation.
De l'Ohio.
Ouais, voilà, exactement. Et puis il m'avait dit, ouais, il m'a dit, ouais, c'est moi et tout, nanana. Et il m'avait dit, ah, tu bois quoi, une bière? Alors c'est pas lui qui me l'avait payé, mais on avait fini notre bière ensemble, on avait discuté rapidement, mais je pourrais pas me rappeler énormément de la conversation. Et je pense que lui était assez proche, comme moi, de l'Ohio aussi d'ailleurs.
Ouais, mais il paraît que selon la légende, à la fin de cet entretien, tu disais des frites.
Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça, et c'est mais pas impossible.
Pour terminer, petite info que je glisse au passage, Pierre Lottin, il est en train d'écrire donc un film qu'il voudrait réaliser, et c'est l'histoire d'un loser, un gars qui tient un vidéoclub et qui veut devenir samouraï. Donc tu vois, pas mal le pitch.
Ah ouais, effectivement. Il a peut-être commencé de l'écrire ce soir là d'ailleurs, c'est pas possible.
Bon, peut-être mon cher Théo, que tu auras une scène avec lui où ce gérant d'un vidéoclub paye une bière à un client fidèle.
Ah, mais si jamais il m'a pas oublié, mais bon, j'en doute un peu. En tout cas, merci Manuel, merci d'avoir encore une fois répondu à notre appel dans Action, et puis on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine.
Oui, avec grand plaisir. Et donc, belle journée à toutes et à tous, et n'oubliez pas, allez au cinéma, le vrai, l'unique sur grand écran. C'est voilà.
À la semaine prochaine, Manuel. Merci.
Bye bye.
Tu la connaissais pas, cette anecdote, hein?
Non, je la connaissais pas. Ouais.
Ouais, je te l'ai jamais raconté. Bah, c'est assez anecdotique parce que ça a duré. En vrai, ça a pas duré longtemps. Mais je m'en rappelle. C'était assez marrant. Mais je suis sûr que je pourrais retrouver parce qu'on avait pris des photos. Hein, et je suis sûr que je pourrais retrouver une photo. Mais
bon, on vous la mettra sur les réseaux sociaux.
Ouais. Si jamais je la retrouve, promis, je la mets en story sur Bac. Bon, on va se reconcentrer sur la dernière sortie au Mazarin. C'est le pan de mur des sorties qui accueille un film que tout le monde connaît. Après le triomphe de Vaiana, la légende du bout du monde, nominé aux Oscars. Hein, d'ailleurs, les studios d'animation Walt Disney sont prêts à enchanter à nouveau le public avec la sortie de Vaiana 2, nouveau long métrage qui s'annonce comme l'événement cinématographique de cette fin d'année. Après avoir reçu une invitation inattendue de ses ancêtres, Vaiana entreprend un périple qui va la conduire jusqu'aux eaux dangereuses situées aux confins des mers des îles du Pacifique. Elle va y vivre bien sûr des péripéties comme jamais vécues auparavant. Bande annonce.
À peine 3 jours.
Où on va?
Avant que Maui ne vole le cœur de Tefiti, nos ancêtres voulaient renouer des liens avec tous les peuples éparpillés sur l'océan. En tant qu'exploratrice, il est de mon devoir d'achever ce qu'ils ont commencé.
Vaiana, montre-nous que nous irons toujours plus loin.
C'est l'invitation des ancêtres.
Au cœur d'une terrible tempête, se cache une île ancienne. Atteindre son rivage briserait la malédiction et réunirait enfin notre peuple.
Je sais ce qu'il me reste à faire. Maui, j'ai vraiment besoin de ton aide.
J'ai droit à Tihou.
Tu seras anéanti, ainsi que ton exploratrice.
J'en viens à regretter le monstre de lave.
Et si tu reviens jamais?
Je reviendrai. Promis.
J'entends des voix?
Oui, mais ce ne sont pas des humains. Les cacas
mourront.
Courage! On peut y arriver! Les noix de... Coco!
Princesse préférée des enfants, Vaiana revient au cinéma pour une nouvelle aventure qui est plutôt bien réussie hein, depuis, d'après les premières avant-premières. C'est le film familial à aller voir pour cette fin d'année et ça tombe bien, il est dispo au ciné Mazarin. Le cinéma qui vous propose une diffusion événement également, on va revenir dessus. En attendant, Letty, je t'invite à monter dans ton grenier pour nous trouver un petit film. Le film L'amour et les forêts, réalisé par Valérie Donzelli, adapté du roman éponyme d'Éric Reinhardt, raconte l'histoire, on en avait déjà parlé, hein, de Blanche Blanche, une femme prisonnière d'une relation toxique et destructrice avec son mari Grégoire, un homme possessif et manipulateur. Blanche trouve du soutien auprès de sa sœur jumelle Rose et puis d'autres figures hein, également de son entourage, mais la domination psychologique de Grégoire va la plonger dans une spirale de souffrance et d'isolement où le combat pour retrouver son autonomie devient de plus en plus urgent. C'est un film qui explore avec intensité la complexité hein, des relations abusives et la lutte intérieure de Blanche pour échapper à cette emprise, tout en révélant la fragilité des liens familiaux et la quête de rédemption. Virginie Efira dans le rôle de Blanche et Melville Poupeau dans celui de Grégoire, L'amour et les forêts. C'est un drame bouleversant et une séance événement est proposée donc ce soir à 20h dans le cadre des journées orange qui est proposée par l'AFED. Alors l'AFED, c'est l'association qui apporte son aide aux femmes et aux hommes en difficulté, et c'est en pleine semaine de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. C'est 2€ la séance ce soir à 20h. Dans les infos à savoir également, Letty, juste avant que qu'on te retrouve pour ton film du grenier, Le Mazarin se met au Black Friday avec une place offerte pour toute carte de 10 places achetées ou rechargement. C'est un avantage sympa qui permet d'avoir un tarif préférentiel finalement. C'est toujours intéressant. Dans le volet également des projections jeunesse, il y a du nouveau. Noël approche et l'impatience grandit dans la forêt. Tout le monde s'apprête à vivre un moment féerique au cœur de l'hiver, mais alors catastrophe, il faut sauver le traîneau du Père Noël. C'est une mission pour nos amis les animaux. C'est le Noël des animaux qui est proposé aux plus jeunes pour un premier cinéma. Première projection d'ailleurs tout à l'heure à 16h, et puis d'autres sont prévus samedi et dimanche. Voilà. Letty, pas d'animaux pour le film de ton grenier.
Non, si, il y a un chien.
Ah si, il y a un chien, c'est, ouais, vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, c'est un retour, le deuxième vers le futur.
Oui, et aujourd'hui, là où on va, on n'a pas besoin de route. Figure-toi qu'il y a 35 ans, Retour vers le futur venait tout juste de sortir dans les salles américaines, juste un mois avant sa sortie en France. Un film toujours réalisé par Robert Zemeckis sur un scénario de Bob Gale, avec toujours dans les rôles principaux Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Retour vers le futur offrait une suite magistrale au premier film, et il s'inscrira d'ailleurs parmi les plus gros succès du box-office en 89 malgré sa sortie tardive, puisque sorti quand même fin de novembre. Et son impact dans la pop culture, il sera tel qu'il existe désormais un Back to the Future Day. C'est le 21 octobre pour ceux qui veulent le célébrer. Et aujourd'hui justement, on revient sur cette deuxième folle aventure de Doc et Marty McFly entre le futur, le présent et le passé. Mais juste avant, bande annonce.
Il faut que tu repartes avec moi.
Où ça?
Et vers le futur.
On est de retour?
On est de retour.
Vous voulez dire qu'on est dans le futur?
Nous sommes au mois d'octobre 2015.
Marty, on va pouvoir assister à notre mariage.
Wow. Le futur, c'est pas croyable.
Regarde ce qui arrive à ton fils.
Mais c'est une vraie poule mouillée.
N'adresse la parole à personne. Mon viette!
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ne touche à rien.
Tu me prêtes ton... Overboard?
Essaie de ne pas regarder autour de toi. Je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps pour gagner au jeu.
Avec ça, je peux pas perdre.
Je l'ai inventé pour voyager dans le temps.
Doc, je vous dis pas le contraire, mais ça mettra un peu de beurre dans les épinards.
Une rupture du continuum espace-temps a produit un 1985 différent de celui où nous sommes.
J'ai vraiment l'impression d'être en enfer.
Non, l'état, il valait, bien que je ne vois pas comment l'enfer pourrait être pire.
Allez ça dans l'exercice, Docteur.
Bif.
Allô.
Hey.
Y a quelqu'un au bout du fil?
Maman? C'est pas possible, tu as tellement, grossi.
Nom de Dieu.
Il valait le 26 octobre 1985. Marty McFly vient de rentrer de son voyage spatio-temporel en 1955 et constate de quelle façon son passage dans le passé a modifié de façon positive son propre présent. Il peut d'ailleurs pas s'empêcher de s'extasier quand il découvre que le 4x4 qu'il faisait tant rêver l'attend dans son garage. Et alors qu'il s'apprête à partir l'essayer accompagné de sa petite amie Jennifer, eh bien voilà que Doc fait soudain irruption. Le vieux savant lui annonce qu'ils doivent immédiatement repartir pour un nouveau voyage dans le temps, mais cette fois-ci, c'est dans le futur qu'ils doivent se rendre, en 2015 plus précisément, afin d'éviter de graves ennuis aux enfants de Marty et Jennifer qui provoqueraient la destruction totale de la famille qu'ils ont fondée. C'est ainsi que Doc Marty et Jennifer, qui elle ignore tout de la machine à voyager dans le temps, se retrouvent projetés grâce à la DeLorean devenue volante dans le centre d'Hill Valley le 21 octobre 2015. Mais attention, Doc va encore une fois mettre Marty en garde. Il n'est jamais bon d'en savoir trop sur son avenir et chaque action pourrait avoir de graves répercussions. Un conseil que Marty va pas suivre à la lettre, et de retour en 85, eh bien les conséquences vont s'avérer dramatiques. Pour remédier à ça et rétablir le continuum espace-temps, eh bien Marty et Doc n'ont plus qu'une seule solution, retourner dans le passé cette fois, à la date du 12 novembre 1955, soit précisément le jour où Marty est reparti en 85 dans le premier film. J'espère que vous avez bien suivi. Hein.
Le plus fascinant dans ce film, c'est le Hill Valley du futur.
Ah ouais, c'est vrai qu'il a vendu du rêve à plus d'un, hein, ce futur imaginé par Robert Zemeckis, même si maintenant son futur appartient au passé, puisqu'on le rappelle, hein, c'est en 2015 que débarque Doc et Marty. Et ce qui est le plus fou, en fait, avec le recul, c'est de voir à quel point l'équipe du film avait anticipé de façon assez incroyable plusieurs technologies actuelles.
Bah ouais, c'est ça, j'imagine, ouais. Ouais, à l'image des Simpsons qui vont dans le temps.
Bien évidemment, la voiture volante, elle n'existe pas encore, tout comme l'hydrateur de pizza ou les Nike à lassage automatique. Il n'y a pas non plus le fameux hoverboard qui flotte dans les airs. On en a une autre version, mais elle est beaucoup moins drôle. Et par contre, il y a d'autres prédictions qui se sont révélées exactes, comme par exemple, on peut voir dans le film, donc qui date de 89, hein, des téléviseurs à écran plat. On peut voir des appels en visio, des lecteurs d'empreintes digitales, des terminaux de paiement numérique, des drones ou encore des maisons intelligentes. Et bah, en 89, tout ça, c'était de la pure science-fiction, alors qu'aujourd'hui, bah, ça fait partie de notre quotidien.
Et qui sait, peut-être que ça a inspiré des idées pour les développeurs, on
sait
pas.
Il y a des théories comme ça, hein, des théories de fans qui disent qu'il y a peut-être des créateurs, ouais, des inventeurs qui se seraient inspirés de ce qu'on a pu voir dans Retour vers le futur 2.
Et lorsque Doc et Marty se retrouvent en 1985 alternatif, donc, un des personnages s'inspire directement d'une personnalité au cœur de notre actualité en ce moment même.
Et là encore, on a un côté très très visionnaire parce que cette personnalité n'est autre que Donald Trump.
Eh ben oui, il est partout lui en vrai.
Il est partout, et déjà en 89 il sert d'inspiration au Biff Tannen du 85 alternatif et cauchemardesque du film, un élément qui vous avait certainement échappé jusqu'à la première élection de Trump en 2016, mais qui est depuis pas devenu évident. D'ailleurs le scénariste Bob Gale a lui-même confirmé s'être inspiré de celui qui était alors un homme d'affaires millionnaire pour façonner ce personnage du Biff qui, on le rappelle, fait fortune grâce à un almanach des sports qui est ramené du futur par Marty. Et c'est effectivement flagrant, hein. Par exemple, Biff, il vit dans un casino de 27 étages qui rappelle étrangement la Trump Tower. Il est excentrique, il est d'une vulgarité sans nom, il est misogyne aussi, il est sans foi ni loi. D'ailleurs, il n'hésite pas à user de corruption pour arriver à ses fins. Et puis surtout, il est totalement mégalo. Heureusement que Doc et Marty arrivent à rétablir le cours de l'histoire, sinon Biff Tannen aurait certainement fini président des États-Unis.
ouais, mauvaise idée. La fin du film, elle amorce vers le futur 3, d'ailleurs.
Oui, bah, tout le monde le sait, hein, Retour vers le futur, c'est une trilogie dont le dernier volet nous embarque au Far West, et on peut voir des extraits dès la fin de Retour vers le futur 2. Alors comment c'est possible ça? Eh bien la raison est simple, c'est que les deux films ont été tournés en fait simultanément.
Ah ouais, d'accord, ah ok, donc ils savaient déjà que quoi qu'il arrive il y aurait un 3.
Exactement, ils avaient déjà commencé à tourner.
Même si le 2 aurait été un pur échec.
Et ouais, ils ont pris des risques. Hein. Ouais. D'ailleurs, il va s'écouler que 6 mois entre la sortie de Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3, qui va arriver en salle en mai 90.
Donc pour ça garder va être, la dynamique, ouais.
Ouais, pour garder, exactement. Juste, je finis par une toute petite anecdote. Dans Retour vers le futur 2, on assiste à la première apparition au cinéma d'un petit enfant qui s'appelle Elijah Wood, qui va devenir ensuite très célèbre dans Le Seigneur des Anneaux.
D'accord, ok. Ouais.
Et puis on a aussi un petit caméo, celui de Flea. Flea, c'est le bassiste de Red Hot Chili Peppers.
Ah d'accord, qu'on voit apparaître comme ça.
On le voit apparaître, il joue Noodle, le collègue véreux qui va faire virer Marty dans le futur, et qu'on va revoir dans Retour vers le futur 3.
Voilà. C'est un film à voir en famille, hein, Retour vers le futur, soit le 1, le 2 ou le 3.
Une trilogie familiale idéale pour Noël.
Et justement, où est-ce qu'on peut le voir ce film?
Alors, il est dispo sur Prime, sur Max, il faut avoir des abonnements. Ouais. Si vous n'avez aucun d'abonnement à aucune plateforme, il est disponible gratuitement. Il y a toute la trilogie qui est dispo gratuitement sur TF1+.
Ah, ça c'est la bonne nouvelle.
Alors
ça.
Il y a un peu de pub, mais ça vaut le coup.
Ouais, mais bon, voilà, en soi c'est pas grave, ça permet de le voir gratuitement comme tu le dis sans frais, Letty, c'est toujours important. Merci à toi, Letty.
Merci Théo.
Merci, on se retrouve tout à l'heure à 13h pour les infos nouvelles invitées. Il y a les Échos du Charbon, hein, qui arrivent à 12h30, c'est ça, Letty?
Oui, avec Les Femmes s'en mêlent, le festival qui va arriver demain au Café Charbon.
Il n'y aura pas de culture en vrac aujourd'hui sur l'actualité de la maison, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'actu, notamment relayé par nos amis du JDC, il y a une inondation dans le sous-sol de la maison qui empêche finalement donc cette émission d'avoir lieu aujourd'hui. En attendant, vous retrouvez donc les échos du Café Charbon à 12h30, et puis nous on se retrouve à 13h. On va continuer de parler cinéma juste après les infos de 13h. À tout à l'heure.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.